Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Moulima.
La République démocratique du Congo et les États-Unis sont déterminés à consolider leur partenariat. Ainsi l'a fait savoir le ministre congolais des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken hier ici à Kinshasa. Et puis Jean-Marc Kabunda a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala où il est placé sous mandat d'arrêt provisoire. C'est sur décision de l'avocat général Kaif Ousseni après son audition au parquet près la cour de cassation hier mardi. Enfin, les villes de Bukavu et Uvira au sud Kivu, ainsi que celles de Goma au nord Kivu, connaissent des perturbations en fourniture d'électricité ces derniers jours. Les machines, pour cause de vétusté, sont tombées en panne. Pour parler de cette situation, nous recevons dans cette édition du journal le directeur provincial de la SNEL sud Kivu, Jovi Moulemangabo. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. La République démocratique du Congo et les États-Unis sont déterminés à consolider leur partenariat, quoique dans une période très turbulente, tant au niveau international qu'à celui dans la partie est de la RDC, région en proie avec des armées terroristes qui sèment la terreur et déciment les populations congolaises depuis plus de 20 ans maintenant. C'est dans ce contexte, a indiqué Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères, que s'est déroulé en bilatéral les échanges entre le gouvernement congolais et la délégation américaine conduite par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, arrivé à Kinshasa hier mardi 9 août. Une visite qui s'est bouclée par une conférence de presse après un tête-à-tête avec le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et les diplomates américains. D'autres détails avec vous, Billy Yvan Lutumba.
Une terreur et des populations décimées attribuables aux différents groupes armés et terroristes, y compris le M23 soutenu par le Rwanda, soutient Kinshasa. Question à laquelle Anthony Blinken a été amené à donner la position des États-Unis.
Nous sommes évidemment préoccupés par ce rapport de Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23, donc nous en appelons à chaque parti dans cette région de pouvoir arrêter tout appui au M23, mais en fait tout appui à tout autre groupe armé non étatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix. Et nous en appelons aux groupes eux-mêmes, notamment le M23 et tous les autres groupes armés, à pouvoir cesser leurs activités violentes, à se démilitariser et à poursuivre des efforts de négociation qui sont importants avec le gouvernement.
Pour totalement éluder la question de cette insécurité qui paraît comme un monstre à plusieurs têtes, avec notamment l'infiltration au sein de l'armée congolaise et la complicité de certains commandants, Christophe Lutundula n'y est pas allé par le dos de la cuillère.
Tout celui qui aura été pris parce qu'il a commis un acte ou a été complice d'un acte qui envenime la situation, qui est contraire aux lois de la République, on devra sévir. Et le président n'a jamais fait un secret là-dessus. Donc, la sanction, elle va tomber conformément aux lois de la République.
Pour Anthony Blinken, l'emphase de sa visite est la partie est de la RDC et le rôle que les États-Unis devraient jouer pour mener la médiation et en définitive empêcher la flambée d'une crise au pays.
S'agissant du rapport des experts des Nations Unies citant l'implication du Rwanda pour son appui au M23 dans l'agression de la RDC, le gouvernement congolais recommande l'implication de son partenaire américain. Que ce rapport ne tombe pas dans le gouffre, à l'instar du rapport Mapping qui jusqu'à présent ressemble à un mort-né depuis près d'une dizaine d'années. Ainsi, Kinshasa insiste sur le fait que ces rapports soient minutieusement examinés par le Conseil de sécurité publié et enfin mettre à nu les pièces à conviction. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, est au micro de Billy Yvan Lutumba.
Aujourd'hui, le problème que pose le rapport, monsieur le secrétaire d'État, c'est qu'il soit examiné par le Conseil de sécurité. Au Congo, nous avons une expérience malheureuse, le rapport Mapping qui a été déposé, je crois maintenant ça va faire une dizaine d'années à peu près, il n'a pas été examiné, on en parle, mais bon, on ne sait même pas finalement qu'est-ce qu'on en fera un jour. Nous demandons, et nous l'avons dit, que le Conseil de sécurité, d'abord, publie le rapport dans son intégralité, y compris les pièces à conviction, et ensuite l'examine en tire de conséquences. Nous avons écrit hier au président du Conseil de sécurité, la lettre est partie hier, aujourd'hui, nous avons aussi saisi la commission de l'Union africaine. Donc, le gouvernement de la République sous l'autorité du chef de l'État, a mis le cap sur l'examen de ce rapport et sa mise à contribution, c'est très important, sa mise à contribution par tous les intervenants bilatéraux et multilatéraux afin de lever le voile de certaines zones d'ombre qui ont été créées délibérément et trouver une solution durable. C'est-à-dire, en fait, les rapports, c'est le diagnostic qui doit nous permettre de trouver les médicaments qu'il faut.
Pendant ces temps, en plus bref, au Nord Kivu, retour au calme hier mardi dans la zone de Nyensisi. C'est sur la limite entre les groupements de Kisigari et Rugari, territoire de Rutshuru. Selon les sources coutumières locales, cette zone était le théâtre des affrontements dans la matinée entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces sources affirment que l'armée aurait repoussé une autre tentative des rebelles de contourner leur position, passant par le parc national de Virunga pour attaquer Kibumba. Et puis à Butembo, les activités commerciales ont repris normalement hier mardi. C'est au lendemain d'une paralysie due à une folle rumeur sur la reprise des manifestations anti-Monisco. Cependant, des barricades ont été érigées sur le boulevard à Fourou le lundi et hier mardi matin par quelques jeunes qui monnayaient le passage aux engins roulants empruntant la route Butembo-Beni. D'après le commandant urbain de la police, le commissaire supérieur principal Polongo Madintoto, plusieurs véhicules dont ceux de la police et des FRDC en intervention ont été même caillassés le lundi. Il ajoute que l'armée est intervenue hier mardi pour dégager la route. Le pasteur Maté San Année, président de la société civile de Butembo, qualifie de barbarie les actes posés à Fourou. Selon lui, aucun mot d'ordre n'a appelé ces jours à une journée ville morte dans le cadre des actions exigeant les départs de la MONUSCO. Autre nouvelle, la résurgence des massacres de la population civile dans les territoires de Djougou et Rumwanitouri fait réagir le gouverneur de province, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Dans une communication à la presse hier mardi à Bunia, le gouverneur attribue ces violences dans les territoires de Djougou à Yves Pangamandro. Ce dernier fait partie, selon lui, des responsables du groupe armé Zaïre qui veulent faire échouer le processus de paix en cours en Ituri. L'autorité provinciale dit disposer des éléments de preuve sur l'implication de cet ancien chef coutumier dans un projet de déstabilisation de la province. Le lieutenant général Johnny Luboya Kachama est au micro de Marcel Kizabiamungu.
Comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer, pour encore réveiller ces actes criminels qu'on était en train vraiment qui était en train de se tasser? C'est ça la grande question. Mais à cette question, nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Yves Kawamandro, chef des Baema Banyoy, qui a enfui ce monsieur-là, chef qu'il est. Il réside à Tchomia. Un matin, il s'est réveillé pour dire que non, voilà, lui, il doit protéger sa communauté, ainsi de suite. Ce monsieur a pris la clé des champs. Dieu seul sait, on dit qu'il est à Berunda, vers Berunda, mais je doute fort, il doit être dans les parages là-bas, où il est en train de recruter, où il est en train de mobiliser. Il appelle les autres communautés pour que, effectivement, des membres de certaines communautés ici, Lendu, je peux encore les citer, Lendu, Bira, pour qu'ils se joignent à lui, pour des motifs qu'il connaît, et que tout le monde connaît aujourd'hui, parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème.
En rapport avec les récentes attaques de rebelles ADF sur l'axe commande à Mambasa, le gouverneur Johnny Luboya rassure que l'armée et son partenaire la MONUSCO sont en train de prendre des dispositions adéquates pour mettre fin à ces violences. Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit immédiatement à la prison centrale de Makala hier mardi. Au terme de son audition par le parquet général près la Cour de cassation, l'avocat général Kaif Ousseni a décidé de son arrestation provisoire. Il va incessamment passer en chambre de conseil devant la Cour de cassation en attendant un procès. Rappelons que Kabound est poursuivi pour notamment des faits d'offense au chef de l'État et injures à l'occasion de sa dernière conférence de presse au cours de laquelle il a fait plusieurs révélations qualifiées de faits graves par le parquet. En réaction, le porte-parole de son parti Alliance pour le Changement dénonce le non-respect des textes légaux. Les propos de Guilain Mouangi ont été recueillis par Kaki Akewa.
Nous sommes face à une forfaiture qui a atteint son paroxysme parce que au niveau de l'affaire Jean-Marc Kabound à Kabound, nous pouvons constater les irrégularités que nous n'avons cessé de soulever au travers de correspondances du président de l'Alliance pour les changements adressées au président de l'Assemblée nationale. Combien de fois nous avons déploré le non-respect des textes légaux dans notre pays, commençant par la Constitution, jusqu'au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et regardez malheureusement que sans observation de l'article 102 de la Constitution, l'honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale, s'est permis de lever les immunités de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound et d'autoriser des poursuites, ce qui est anarchique et contre les games, parce que les textes en vigueur à l'Assemblée nationale ne donnent pas une latitude aussi large au bureau pour agir en tant que tel, surtout en période de vacances parlementaires. Nous comprenons que ce qui est fait de manière expéditive est fait parce qu'il y a un complot auquel le bureau de l'Assemblée nationale a pris part avec les régimes actuels pour livrer l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Mais à ce niveau, il continue à jurer des présomptions d'innocence au regard de la loi.
Autre nouvelle, dans le territoire de Tiela au Congo central, les travaux liés au programme de développement à la base de 145 territoires vont débuter d'ici la fin de ce mois d'août. Les assurances viennent du vice-ministre du plan qui est en tournée à Tiela, son fief électoral, dans les cadres de la vulgarisation et de la sensibilisation de la population sur ce programme de développement local. Par ailleurs, Crispin Badou Panzou affirme que la gratuité de l'enseignement aura un coup de pouce grâce à 12 autres établissements scolaires qui seront construits dans les territoires de Tiela. Nana Plurush Mambou.
Selon le vice-ministre du plan, 12 écoles, 8 centres de santé et un bâtiment administratif seront construits dans le territoire de Tiela dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires. La même source révèle que la cellule de financement en faveur des États fragiles choisie pour mettre en œuvre ses travaux au Congo central a déjà bouclé l'étape des études préliminaires, notamment dans les volets infrastructures socio-économiques de base. Les travaux proprement dits débuteront d'ici la fin de ce mois d'août. S'agissant du réseau routier, Crispin Badou renseigne que le gouvernement a déjà versé l'argent auprès des agences d'exécution pour les volets études. Il appelle la population à s'approprier ces programmes qui prend en compte leurs besoins.
Nous nous approchons de la mise en œuvre. Les équipes ont été envoyées dans les chefs-lieux des territoires. Il y a eu des ateliers autour de la société civile. Tous les projets, que ce soit les routes, que ce soit les écoles, les centres de santé, ce sont des besoins qui ont été exprimés clairement par la population. Donc ce n'est pas quelque chose que nous, à Kinshasa, nous avons imposé.
Le vice-ministre du plan Crispin Badou rassure que les routes délabrées qui compliquent l'évacuation des produits agricoles dans les territoires de Tiela non prises en compte dans ces programmes seront prises en charge par le ministère des développements rural. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, depuis sa création en 2005, le marché communal d'Alungouli sera bientôt modernisé. Le gouverneur intérimaire a procédé hier mardi à la pose de la première pierre pour la reconstruction du dit marché. Les travaux seront financés sur fonds propres du gouvernement provincial. Ce geste est salué par tous les opérateurs économiques qui disent travailler dans de mauvaises conditions à la suite de l'insuffisance des pavillons. Reportage Florence Kizalunga.
Situé au quartier Muzelela, ce marché sert la population des quatre quartiers qui comptent la commune d'Alungouli. Les opérateurs économiques poussent déjà un ouf de soulagement.
Nos impressions sont très très bonnes du fait que nous étions en train de travailler dans des conditions difficiles et nous n'avions même pas des étalages. Et quand il pleut vraiment, les commerçants perdaient leurs marchandises. Ce projet vient vraiment de résoudre les problèmes.
Exécuté par l'entreprise Alma Group, ces travaux dureront 4 mois. Ingénieur Alain Mayola sont responsables dans la fiche technique.
Les travaux consistent à la construction d'un pavillon unique avec une capacité d'accueil de 783 personnes. 13 boutiques, dépôt d'un bloc sanitaire de 4 portes, 2 boutiques administratives, le forage manuel d'un puits d'eau avec un réservoir de 1000 litres, l'assainissement du milieu, la construction des canevous d'évacuation d'eau et enfin l'éclairage de toutes les installations.
L'autorité provinciale dit penser au gagne petit.
Nous avons voulu songer au gagne petit, à ceux qui se débrident, à ceux qui vivent dans les conditions de vente de leurs biens et services.
L'enveloppe globale de travaux est de plus de 150 000 $ américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À Kananga, il observe depuis quelques semaines une hausse de prix du maïs sur le marché. Une mesurette communément appelée Meka qui s'est négociée à 2500 se vend actuellement à 4000 voire plus à certains endroits. Cette situation est due à la rareté de cette denrée sur le marché. Le comité d'acheteurs et évacuateurs de produits agricoles CEPA parle des perturbations de l'une des saisons culturelles avec les pluies qui n'ont pas permis une grande production. Le maïs de l'autre saison a été évacué vers Kinshasa à partir de Mweka à la suite de la demande sur le marché quinois. Elvis Kabuya, secrétaire de CEPA, l'a dit à François Kadima.
Nous avons connu une année exceptionnelle cette fois-ci, particulièrement pour notre province du Kasaï central. Premièrement, lorsqu'il fallait cultiver, semer, il y a eu de fortes pluies qui ont perturbé les travaux champêtres. Les paysans n'ont pas pu s'en sortir. Ça, c'est un. De deux, les maïs de la première saison, parce que dans notre secteur de maïs, il y a les maïs de la première saison et les maïs de la deuxième saison. C'est les maïs de la première saison qui inondent les marchés. Mais cette fois-ci, effectivement, il y a eu les maïs pour la première saison. Ces maïs a été évacué vers notre ville, province de Kinshasa. Quand nos amis, nos frères ont appris qu'il y a hausse des prix de maïs à Kinshasa, ils ont préféré ramener leur maïs à Kinshasa, vendre à un bon prix et puis retourner pour acheter les maïs de deuxième saison qui devraient ramener ici sur la ville. Or, on ne savait pas qu'on devait trouver le contraire. C'est ainsi que 80% des maïs de la première saison a été évacué vers Kinshasa. Les peu qui est resté, évacué vers ici. Moyen d'inonder le marché, il n'y en a pas. On sait vous-même la loi de l'offre et de la demande.
Actualité internationale.
Les Kenyans étaient appelés aux urnes hier mardi pour choisir leur nouveau président, mais aussi leurs élus locaux, députés, gouverneurs ou encore sénateurs. Hormis quelques incidents, l'élection s'est dans l'ensemble déroulée de manière pacifique dans le pays. Le scrutin est toutefois marqué par l'abstention qui a progressé en 5 ans.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu Jovi Mulemangabo. Il nous parle de perturbations en fourniture d'électricité ces derniers jours dans la ville de Bukavu, Vira au Sud Kivu et dans la ville de Goma. Il s'entretient ici avec Emmanuel et la Mejua Kabedi. Suivi.
Monsieur le directeur Jovi Mulemangabo, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Nous sommes ici sur la centrale Rogers et Premier de la SNEL Sud Kivu et il y a perturbations ces derniers temps sur la ville de Bukavu, dans la province en général. Quel est le problème?
Effectivement, messieurs les journalistes, vous venez de circuler dans la centrale. Je vous ai montré que sur les 4 machines installées ici à la centrale Ruzizi, hein, on a vraiment des difficultés parce que hier, il n'y a qu'une seule machine qui fonctionnait.
La journée de lundi.
La journée de lundi, il n'y a qu'une machine qui fonctionnait parce que sur un groupe, donc le groupe numéro 1, il y avait une fuite d'eau importante. Il était question de colmater cette fuite pour remettre cette machine en service.
Donc, quand c'est une machine qui fonctionnait, c'était quelle capacité alors?
Oui, la machine qui fonctionnait, c'était une machine de 6 MW. Quand on a réparé l'autre machine, quand on a colmaté toutes les fuites, on a remis le groupe en service avec d'abord 4 MW et au fur et à mesure, on va atteindre 6 MW. On est déjà autour de 10 MW pour le moment.
Est-ce suffisant ou c'est toujours moins?
Négatif, ça ne suffit pas. Les deux autres groupes qui sont encore consignés, c'est le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Sur le groupe numéro 4, il y a une fuite très importante qui a été constatée, raison pour laquelle on l'a arrêté pour faire les contrôles et localiser là où il y a une fuite importante d'huile. Et nous sommes en train de travailler.
Qu'est-ce qui justifie toutes ces pannes dues à des fuites dont vous parlez aujourd'hui?
Oui, ce sont des groupes qui sont déjà vétustes. Hein. Il y a deux, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, qui ont été installés en 1958. Et les deux autres, groupes numéro 3 et 4, ils ont été installés en 1974. Vous voyez, ce sont des machines qui travaillent 24 sur 24. Et pour augmenter leur rendement, il faut absolument les arrêter par moment, faire les entretiens périodiques pour qu'ils puissent donner un bon rendement à la fin.
Et si toutes les machines sont en service, vous avez quelle capacité pour desservir la population, vos abonnés?
Oui, si toutes les conditions hydrologiques sont réunies, nous pouvons aller jusqu'à 29 MW. Mais normalement, avec les problèmes que nous connaissons, hein, des niveaux d'eau, des déchets que les gens jettent sur les lacs et qui viennent échouer ici au barrage de la Ruzizi, nous sommes limités, hein? On ne peut plus arriver à 29 MW. Souvent, nous nageons entre 21 et 23 MW.
Mais est-ce que c'est seulement cette centrale dont se sert la SNEL, Sud Kivu, ou vous avez d'autres sources aussi?
Oui, en plus de cette centrale, nous avons aussi l'importation au niveau de la centrale Rusizide. Rusizide, c'est une centrale communautaire qui appartient à trois pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC.
C'est
et
ça qu'on appelle Sinelac.
C'est ça la centrale de Sinelac. Sur la production totale, estimée à 30 MW quand tous les groupes sont en service, chaque pays a droit au tiers.
Mais quels sont les besoins aujourd'hui de vos abonnés? Qu'est-ce que vous couvrez la SNEL Sud Kivu? Vous avez besoin d'à peu près combien pour couvrir tous les besoins de vos abonnés?
En tout cas, pour couvrir les besoins de tous les abonnés, ici au Sud Kivu, il nous faut au moins 100 MW. Au niveau du Nord Kivu, parce que les deux centrales, Rusizi 1 et Rusizi 2, desservent aussi la ville de Goma.
Ok.
Donc Goma aussi, pour qu'ils puissent aussi alimenter toutes les cabines sans délestage, il faut au moins 50 MW. Or aujourd'hui, vous voyez ce que je vais de vous dire là, nous ici, toutes les machines sont en service, c'est limite, on est autour de 13 MW, Goma est autour de 8 MW, donc jusque là, ça ne suffit encore pas et nous devons tout faire pour augmenter encore d'autres sources de production.
Donc la journée de lundi avec les 6 MW, donc même la ville de Goma aussi était affectée?
Tout le monde était affecté. Hein? Nous sommes sur un réseau interconnecté. C'est-à-dire, nous avons un problème à la centrale de Rusizi 1er et même Rusizi 2, et le Nord Kivu et le Sud Kivu, nous sommes tous affectés par cette panne.
Monsieur le directeur Jovi Lemangabo, merci.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.